Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Gaza, Ukraine, deux dossiers explosifs qui inquiètent vivement la communauté internationale. Ils sont au cœur des pensées de l'évêque de Rome ces jours-ci. Il a téléphoné au président Pérez et Abbas et écrit au curé de Gaza. Le pape François assure de sa prière incessante et de celle de toute l'Église. Chrétiens et musulmans sont membres d'une même famille humaine créée par Dieu. Le Saint-Siège le rappelle dans un message invitant les fidèles des deux religions à travailler toujours plus pour le dialogue, la justice et la paix, en particulier dans les zones de conflit où la religion est instrumentalisée. Ce vendredi, sous la menace des djihadistes, la ville irakienne de Mossoul se vidait de ses chrétiens. En Calabre, la criminalité organisée contrôle 80% de l'importation de cocaïne en Europe et parasite l'économie légale. Condamnée par le pape François, elle a lancé un défi à l'Église. Les évêques unissent leurs forces pour lutter contre la pègre. Le pape François a téléphoné personnellement ce vendredi matin aux présidents israéliens Shimon Peres et palestinien Mahmoud Abbas pour leur faire part de sa forte préoccupation au sujet de l'actuelle situation de guerre qui concerne tout spécialement la bande de Gaza. Un conflit qui a déjà fait de nombreuses victimes et créé une situation de grave urgence humanitaire. Le 8 juin, le pape François avait organisé une prière commune au Vatican avec Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Christelle Pierre.
Le Saint-Père déplore ce climat d'hostilité, de haine et de souffrance croissante entre les deux peuples qui engendre de nombreuses victimes et qui donne lieu à une situation de grave urgence humanitaire. Au cours de ses entretiens téléphoniques avec les deux présidents, il insistait sur la nécessité de continuer à prier. Toutes parties impliquées et tous ceux qui ont des responsabilités politiques au niveau local et international doivent s'engager à faire cesser les hostilités, à conclure une trêve et à ramener la paix et la réconciliation dans les cœurs. Jeudi soir, peu avant le déclenchement de l'offensive terrestre, le souverain pontife avait envoyé un mail au curé de Gaza pour réconforter la communauté catholique locale. Quelques mots essentiel mais intense. Il se dit proche des religieuses et des fidèles qui l'accompagnent de ses prières. Environ 200 catholiques vivent à Gaza. Le curé est un missionnaire argentin de l'Institut du Verbe incarné. Mercredi, trois roquettes se sont abattues sur une maison en face de la paroisse de la Sainte Famille. Depuis le début du conflit, les sœurs de Mère Teresa se sont installées dans les locaux paroissiaux avec les 28 enfants infirmes et les 9 personnes âgées qu'elles assistent.
Au-delà des combats actuels dans la bande de Gaza, des initiatives de paix et de réconciliation existent depuis de nombreuses années au Proche-Orient. C'est le cas du Cercle des Parents Forum des Familles. Né en 1998, il rassemble des familles israéliennes et palestiniennes ayant perdu des proches pendant le conflit. Réunis par le deuil et la douleur, ces familles que tout semble séparer se mobilisent pour faire entendre leur message « La paix est possible, il suffit de se parler ». C'est le sens du témoignage de Yuval Rahamin, membre israélien de cette association.
Bon, la plupart de nos activités sont des activités publiques. Nous faisons des démonstrations de notre amitié et on prouve par ça que le dialogue est possible. On va dans des lycées, par couple, un Palestinien, un Israélien, on raconte nos histoires personnelles. Les étudiants israéliens ou palestiniens, c'est la première fois qu'ils voient l'autre côté, l'adversaire, quoi, et qui parle dans leur langue. C'est pas un monstre. C'est là où il arrive la transformation des gens.
Donc vous direz dans l'ensemble que la jeunesse, tant israélienne que palestinienne, est sensible à votre message ?
Oui. Il y en a qui sont vraiment touchés par cette démonstration parce que c'est la première fois qu'ils voient des Palestiniens et Israéliens qui sont vraiment en amitié. C'est au niveau très émotionnel qu'on fait notre éducation. C'est pas qu'on parle pas, hein, on parle des solutions aussi, mais on parle plutôt de la possibilité humaine.
On peut dire que c'est là le problème, c'est que Israéliens et Palestiniens vivent côte à côte sans se connaître. C'est ça le problème ?
Voilà, il y a un mur, pas seulement un mur physique, du mur de méconnaissance, d'ignorance, de haine, de la peur. Hein. Il y a une méconnaissance énorme hein, maintenant. On a bientôt des camps d'été pour les enfants de lycée. On a à peu près 20 enfants israéliens et 20 palestiniens qui vont passer 4 jours ensemble. Au début, ils sont très hésitants de parler. Donc, vous voyez deux groupes différents. Après quelques heures, il se mélange et vous ne savez plus dire ce qui est israélien et qui est palestinien.
Comment êtes-vous perçu par la société israélienne? Est-ce que vous percevez à votre égard une attitude plutôt positive ou au contraire une véritable opposition?
Nous, on a une position un peu spéciale parce que ce sont des familles endeuillées, donc on a beaucoup de respect par la société israélienne. Mais c'est vrai que la société israélienne, maintenant, subit un vague pas très agréable.
Quel est votre message?
Qu'il faut parler, c'est ce qu'il faut faire, même avec le Hamas, avec tout le monde, il faut parler.
Est-ce que vous gardez espoir tout de même?
Je crois fortement, j'ai pas d'autre choix. Pas le choix.
Yuval Rahamim, membre de l'association Cercle des parents Forum des familles, interrogé par Manuela à Fidji. En Irak, ce vendredi, les dernières familles chrétiennes encore présentes à Mossoul quittaient la ville en direction de Karakoche, une ville majoritairement chrétienne dans la plaine de Ninive, mais aussi plus à l'est, vers le Kurdistan irakien. Selon le patriarche chaldéen Louis Raphaël Ier Sacco, les djihadistes ont ordonné aux chrétiens de Mossoul de se convertir à l'islam, de payer l'impôt islamique ou de quitter leur maison sans rien prendre. Toute propriété appartient désormais à l'État islamique. Je vous propose d'écouter le président de l'association Fraternité en Irak, Faraj Benoît Kamura.
Les maisons des chrétiens, mais aussi les maisons des yézidis et des chiites de Mossoul ont été marquées avec des inscriptions disant que ces maisons appartiennent désormais à l'État islamique. Donc ça a été une première chose très marquante. Hier, un représentant de l'État islamique est passé à l'évêché syriaque catholique de Mossoul et a demandé à ce que, hier dans l'après-midi, les chrétiens de la ville se rassemblent afin qu'il leur soit expliqué les règles pour vivre dans le califat islamique de Mossoul. Les chrétiens de Mossoul n'ont pas eu naturellement tellement confiance, donc ils ne se sont pas rendus à cette convocation. Et hier soir, jusque vers tard dans la nuit, des voitures avec des haut-parleurs ont sillonné la ville. En plus de ces haut-parleurs qui ont diffusé cet ultimatum hier, une lettre a été distribuée à certaines familles. L'ultimatum était fixé à aujourd'hui midi. Par conséquent, il y a eu une véritable panique. La centaine de familles chrétiennes qui se trouvaient encore à Mossoul a quitté la ville avec précipitation. Et ces familles au checkpoint de sortie de Mossoul ont été rançonnées, elles ont été fouillées, on a volé leurs biens et pour ceux qui avaient une voiture encore à peu près neuve, on leur a volé leur voiture. Ces personnes arrivent à Karakoche, arrivent dans les villages de la plaine de Ninive avec pour certains uniquement leurs vêtements sur eux et ils ne savent pas quel est leur avenir dans cet Irak. C'est une grande tragédie parce qu'il faut rappeler que Mossoul, avant 2003, comptait au moins 20 000 chrétiens, qu'il y a encore 20 ans, Mossoul était une des plus grandes villes chrétiennes de tout le Proche-Orient. Ce qui vient de se passer à Mossoul est extrêmement préoccupant. Il y a un enjeu humanitaire vraiment urgent.
Le président de l'association Fraternité en Irak, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Dans ce contexte dramatique, le Saint-Siège invite les musulmans à travailler ensemble avec les chrétiens pour construire des ponts de paix et promouvoir la réconciliation, en particulier dans les régions où musulmans et chrétiens souffrent ensemble des horreurs de la guerre. Cet appel est contenu dans un message du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux à l'occasion du mois de Ramadan. Le monde contemporain doit faire face à de graves défis. Les menaces qui pèsent sur l'environnement, les familles séparées, la crise économique mondiale et le taux de chômage élevé, particulièrement chez les jeunes. Chrétiens et musulmans peuvent contribuer, selon le texte, à réduire les tensions et les conflits et à démontrer aussi que les religions peuvent être une source d'harmonie pour le bien de l'ensemble de la société. Ce message porte la signature du cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Je vous propose de l'écouter.
Nous sommes tous des êtres créés. Nous reconnaissons comme frères et sœurs de la grande famille humaine. Alors face aux situations dramatiques et à l'incertitude de l'avenir, nous reconnaissons frères et sœurs musulmans et l'avenir dépend de la cohésion de cette famille humaine, de la collaboration entre ces deux religions.
Justement, écrivez-vous, travaillons ensemble pour construire des ponts de paix et promouvoir la réconciliation, en particulier dans les régions où musulmans et chrétiens souffrent ensemble des horreurs de la guerre. Des mots qui ont évidemment une résonance particulière ces jours-ci avec ce qui se passe notamment en Irak. Quel est le regard que vous portez sur la situation dans ce pays ?
C'est un regard plein d'appréhension. On ne peut être que scandalisé quand on voit la manière dont les droits les plus fondamentaux de la personne humaine sont bafoués. Cette haine, détruire tout ce qu'on a construit au prix de tant de sacrifices, c'est une chose qui est très triste. Et nous souhaitons que renouveler dans leurs convictions, grâce au Ramadan, nos frères musulmans sachent trouver les voies qui leur permettent de s'unir à tous ceux qui s'efforcent de faire prévaloir le respect et la générosité sur la haine et la violence. Dans la fraternité aussi, je crois, nous fait un devoir de prier pour les responsables des sociétés afin que se dilatent dans leur cœur la sagesse et l'intelligence nécessaires pour résoudre ces problèmes. Et
dans cet océan de violence imminente, on a parfois la tentation de renvoyer chacun un peu dans son camp. En quoi chrétiens comme musulmans peuvent s'apporter une espérance commune et se conforter face à toute cette violence ?
Dans la vie de chaque jour d'abord. C'est dans la vie de chaque jour. Les chrétiens et musulmans vivent ensemble, travaillent ensemble. Le problème, c'est lorsque les idéologies viennent perturber ce climat. C'est alors dans la famille, à l'école, à l'église, dans la mosquée, qu'on doit distiller ces valeurs, que sont le respect de la personne humaine, le respect de la vie, le respect de la propriété d'autrui, et puis aussi, pour les responsables des sociétés, suivre le droit international. Nous avons un patrimoine de conventions qui permettent de résoudre tous les problèmes sans avoir à utiliser les armes.
Est-ce que vous avez le sentiment, Éminence, que les idéologies dont vous avez parlé gagnent du terrain aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient ?
Oui, mais sans doute. Oui. La radicalisation des positions qui est très dangereuse. Enfin, on se trouve dans une impasse, je pense. Au lieu d'avancer, on recule. Et moi, je crois toujours à la force du droit international que l'on met passé en valeur. Si on a pris des engagements, il faut les tenir. Je crois que nous, comme croyants, nous avons deux instruments magnifiques que Dieu nous a donnés, l'intelligence pour comprendre et le cœur pour aimer. Je crois qu'avec ça, on peut transformer le monde. Justement, il faut qu'on soit tous ensemble.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, interrogé par Olivier Bonnel. Les évêques suisses ont invité la population à accueillir des réfugiés syriens. Dans un communiqué, le président de la conférence épiscopale helvétique rappelle que le conflit syrien a provoqué une tragédie aux proportions inimaginables en ce qui concerne le nombre des réfugiés. 9 millions de personnes ont dû abandonner leur pays. Elles ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Il s'agit, selon l'évêque de Saint-Gall, d'un des plus grands drames de ces 20 dernières années. La Suisse a offert une contribution humanitaire considérable, mais selon les évêques, elle peut faire davantage. Il y a quelques jours, dans le diocèse de Saint-Gall, une 60aine de réfugiés syriens ont été accueillis dans les locaux d'un institut de la Société du Verbe Divin. Toutes les communes du canton, groupes ecclésiaux et sociétés civiles se sont mobilisées pour pourvoir à leur subsistance. La Suisse est par ailleurs engagée à accueillir 500 réfugiés syriens, essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées ou infirmes. Les évêques soutiennent la proposition faite par Caritas, demandant que la Confédération en accueille au moins 5 000, c'est-à-dire 10 fois plus. Mais le Moyen-Orient n'est malheureusement pas la seule région du monde touchée par la montée de l'islamisme radical. L'inquiétude grandit également en Afrique occidentale et centrale. En quelques années, le groupe islamiste Boko Haram est devenu une menace pour la majorité des pays de la région. Depuis quelques jours, dans l'extrême nord du Cameroun, les membres de Boko Haram multiplient les actions de harcèlement, attaques de gendarmerie, enlèvements et meurtres. Face à cette insécurité grandissante aux frontières du pays, les évêques camerounais ont décidé d'organiser ce samedi une journée de prière pour la paix et des processions dans tout le pays. Nous avons interrogé Mgr Samuel Kléda, archevêque métropolitain de Douala au Cameroun. Il évoque ses inquiétudes et l'importance de cet événement.
La peur est générale et beaucoup de gens ont quitté le Nord Cameroun. Et quand même, il y a eu deux enlèvements de prêtres et de religieux. Mais il ne s'agit pas d'une lutte où on vise les chrétiens. C'est tout le monde qui est visé, les chrétiens comme les musulmans. On voit très bien quand on fait la prière, quand on prend position, on le fait ensemble, chrétiens et musulmans. Nous nous mettons tous ensemble pour agir.
Quel message souhaitez-vous faire passer avec cette journée de prière ?
Nous, chrétiens, nous, pasteurs, nous avons devant nous des gens qui ont des armes. Nous ne pouvons pas dire, ok, nous aussi, nous allons, n'est-ce pas, aller chez le forgeron pour fabriquer nos armes. Mais pour nous, nous allons chez Dieu, nous allons lui présenter nos intentions. Pour que justement, lui qui nous a donné la paix, que nous soyons, n'est-ce pas, des artisans de paix par la prière. Parce qu'on peut tout vaincre par la prière. Ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous avons décidé de prier. Tous ceux qui peuvent se joindre à nous dans cette prière, nous leur demandons de le faire.
Et est-ce que vous attendez aussi plus d'efforts de la part du gouvernement?
Bien sûr, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger les populations, de protéger les personnes et leurs biens. Donc, l'État doit ne pas prendre les responsabilités. Au mois d'avril, nous avons fait une déclaration à ce sujet, demandant, n'est-ce pas, à l'État, l'encourageant, de prendre les moyens qui s'imposent pour protéger les gens.
Monseigneur Cléda, archevêque de Douala au Cameroun, interrogé par Audrey Radondi. Autre zone de forte tension dans le monde, l'Ukraine. Le pape François a pris avec consternation la nouvelle du crash d'un avion malaisien jeudi dans l'est du pays. C'est ce que souligne un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège. L'évêque de Rome prie pour les nombreuses victimes et leurs familles. Il renouvelle son appel aux parties en conflit pour qu'elles s'engagent à trouver des solutions de dialogue et à faire cesser l'effusion de sang et la perte de vies innocentes. La destruction en vol de l'avion malaisien a suscité colère et interrogation dans le monde. Le résultat de l'enquête risque d'avoir un impact décisif sur le conflit qui déchire l'Ukraine depuis 3 mois. En Italie, les évêques de Calabre se mobilisent contre la mafia. Ils se sont réunis jeudi en présence du secrétaire général de la conférence épiscopale, Mgr Nunzio Galantino, lui-même très engagé contre le crime organisé. Cette concertation s'est tenue dans la foulée de la prise de position du pape François lors de sa récente visite en Calabre et des incidents qui ont suivi cette visite. Dans une maison d'arrêt, 200 prisonniers liés à la mafia avaient refusé d'assister à la messe célébrée par l'évêque du diocèse. Par ailleurs, une procession mariale avait été détourné pour effectuer une halte en hommage à un chef mafieux, Xavier Sartre.
L'échange a été franc et intense. Les évêques calabrais veulent mettre au point une stratégie commune impliquant les communautés ecclésiales face à ce qu'ils qualifient de plaie ignoble qui défigure depuis trop longtemps la vie des Calabrais. Ce n'est pas la première fois que l'Église italienne condamne fermement les mafias et invite les criminels au repentir et à la conversion. Mais le phénomène a acquis ces derniers temps une nouvelle connotation qui exige de la part des évêques une prise de parole encore plus claire et vigoureuse. Dans un message publié au terme de cette assemblée extraordinaire, il réaffirme que la mafia est contraire à l'Évangile et se situe donc en dehors du christianisme et de l'Église. Il se déclare déterminé à éradiquer les incrustations et les déviations qui minent l'authenticité des dévotions populaires et des rites religieux. Des responsables de la pègre se sont en effet infiltrés dans les rangs des organisations chargées des manifestations de piété populaire. Face à ce phénomène, tous les diocèses calabrais sont invités à adopter le même style de témoignage chrétien. Une note pastorale contenant des indications concrètes sera publié d'ici le mois d'octobre. L'Église devra se montrer unie et déterminée, mais aussi s'efforcer d'accompagner les criminels vers la conversion et la réinsertion dans la société. En cette heure historique, affirme le message, elle ne peut plus se limiter à parler du Christ, elle doit offrir un témoignage crédible du Christ. Enfin, les évêques remercient le Saint-Père d'avoir eu des paroles d'espérance pour les jeunes et pour les chômeurs blessés dans leur dignité.
Ces dernières années, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, est devenue la plus importante et la plus redoutée des 4 organisations du crime en Italie. Spécialisée dans le trafic de drogue, l'organisation s'est mondialisée. Elle maîtrise les circuits complexes du blanchiment d'argent et investit dans le monde entier. Son chiffre d'affaires est estimé à une 50 milliards d'euros. Le Saint-Père a enregistré un message vidéo pour le 20e anniversaire de l'attentat perpétré en 1994 contre une association juive de Buenos Aires, la Mutuelle Amia, dans le quartier commerçant juif de la capitale argentine. Cet attentat, le plus grave dans l'histoire de ce pays, avait fait 85 morts et 300 blessés. À l'époque, Mgr Bergoglio était archevêque de Buenos Aires. La vidéo a été enregistrée sur son smartphone par le président du Congrès juif latino-américain lors d'une récente visite au Vatican. Le pape François y exprime sa proximité et sa prière pour toutes les victimes. Il condamne le terrorisme, une folie qui sait seulement tuer et pas construire, et demande que justice soit faite. L'Argentine accuse l'Iran d'être responsable de cette attaque, mais il n'y a eu aucune arrestation et le dossier judiciaire est bloqué. L'Argentine abrite la plus importante communauté juive d'Amérique latine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne fin de semaine à tous.